une DVF ce matin, mais qui est prise par une exposition de peinture. Elle est peintre par ailleurs. Et donc, elle est obligée d'être présente à cette exposition. Elle termine en ce moment, elle est aussi sociologue, et elle termine une communication sur les modalités de classement. Et dans ces exemples, elle montre qu'en fait, il est quasiment impossible actuellement de re-questionner le capitalisme dans le cadre des grandes discussions. Dès qu'on arrive au capitalisme, tout le monde s'arrête en disant on ne peut pas aller au-delà de cette observation qu'il y a des effets, mais comment les remettre en question, et ces impensés et impensables apparemment émergents dans nos sociétés depuis 10-15 ans, il faut aussi vraiment là continuer à les travailler, parce que au nom de quoi nous interdisons, nous, d'aller jusqu'au bout d'un certain nombre de remises en question, sauf qu'on se rend bien compte que si on va jusqu'au bout, le roi est nu, il n'y a plus rien, et on est en face de l'obligation de tout reconstruire, tout. Et à ce moment-là, ça devient... Bon, je ne vais pas plus loin, parce qu'il y a Stéphane qui a encore à parler.
Non, je pense que là, il y a un débat, quand même. Il est moins le quart, là, je vais pas changer. Midi et quart. Donc il faut laisser la parole. Non, on va pas... Non, moi, en revanche, il y a un point sur lequel je suis pas complètement d'accord avec toi, et je pense que c'est un point absolument fondamental. Je pense que la technologie informe la réalité. La technologie, elle met en forme la réalité. La pensée humaine, elle est foisonnante. Elle est buissonnante. Et l'écriture l'a transformée en pensée linéaire, avec toute la création du raisonnement, du syllogisme. Et l'imprimerie a transformé cette pensée. Ce qui fait que la réalité a été obligée de se plier à la contrainte technologique de l'imprimerie et de l'écriture qui met une page après une page et une phrase après une phrase. Et c'est exactement le même phénomène auquel on est en train d'assister avec la technologie numérique, qui, elle, transforme la réalité en bits, c'est-à-dire en unités discrètes. Ce qui fait que tout ce qui est la continuité de la réalité, où on ne peut pas dire qu'on n'est plus adrénaline, on est un... se transforme forcément en discrétisation, c'est-à-dire en unités isolées les unes des autres. Et moi, je le vois dans la socio-anthropologie, je le vois dans les... et en santé. On le voit en santé, en éducation pour la santé en particulier, où aujourd'hui, du fait même des outils de mesure, on ne prend en compte que ce qui peut rentrer dans la mesure. Tout le reste est effacé. Ce qui fait qu'il y a 15 jours, j'étais aux journées de Santé publique France, où, qui est maintenant la structure qui a absorbé l'éducation pour la santé, l'épidémiologie, mais l'épidémiologie, donc, qui est informatisable, a pris le dessus. Et en éducation pour la santé, on a eu en conférence plénière devant 800 personnes, quelqu'un qui est venu nous dire, sans rigoler, sans rire, qu'on avait démontré avec un programme qui s'appelle Nudge qu'auprès des collégiens, on pouvait faire des actions de prévention avec un effet dose-réponse. C'est-à-dire qu'ils affichent une courbe en mettant en relation le nombre de séances et les réponses positives en fait, après avec les enfants. C'est-à-dire que plus on leur dit qu'il ne faut pas picoler, et plus ils disent qu'il ne faut pas picoler. Et ils font ça sans rire.
S'il fallait la suivre.
C'est complètement... C'est d'une absurdité totale. On revient au 19e siècle. C'est-à-dire que quand on fait 12 séances, les enfants répondent plus correctement que quand on n'en fait que 10. Alors, est-ce que ça veut dire qu'ils picoleront moins? Bien évidemment, non. C'est beaucoup plus complexe que ça.
Peut-être même au contraire.
Mais ce qui veut dire que là, en l'occurrence, c'est la technologie qui a mis en forme la réalité et qui nous transforme notre vision du monde. Et ça, je crois que c'est très important d'en prendre conscience. Parce qu'on est à cette phase de transition qui est de même nature, comme j'avais mis dans l'argumentaire, que celle de l'imprimerie. Avec les conséquences de la mise à l'index des livres, qui considèrent, et aujourd'hui de la mise à l'index d'un certain nombre de sites internet considérés comme étant néfastes ou nuisibles. Je veux dire, c'est cette révolution qui me paraît importante. Alors, tu dis qu'il ne faut pas mettre la technologie en cause en tant que telle, je crois quand même que si. Il faut les mécanismes que cette technologie entraîne doivent être réfléchis.
Je pense que je crois que oui, bien sûr, il faut réfléchir aux mécanismes que la technologie entraîne. Mon propos était pour dire que une fois qu'on a dit ça, et je pense que je partage le fait que effectivement la technologie change la réalité, et que en tout cas elle informe la réalité de manière différente, et les différentes technologies informent la réalité de manière différente. Mais une fois qu'on a dit ça, en fait, la difficulté à laquelle moi je me trouve confronté en tant que militant, c'est que au fond, sur quel levier est-ce que je vais pouvoir agir pour changer cette situation ?
D'accord.
Et mon premier constat, c'est que si je ne regarde que la technologie elle-même, j'oublie de regarder le néolibéralisme, enfin, en tout cas le projet politique qui est aujourd'hui agissant et dominant et hégémonique, et aussi j'oublie que au fond, là où je dois chercher à changer les choses, je reviens à la définition des communs que je vous ai proposé tout à l'heure, comment est-ce que je peux produire un régime de production qui est un régime de production d'une société plus juste, de la solidarité et du bien-être, et non pas produire de la valeur marchande. Donc, quand je pose cette question-là et que je vois, par exemple, l'exemple que je donnais tout à l'heure sur le fait que l'outil qui est aujourd'hui utilisé, le mécanisme comme le salaire, les mécanismes de rétribution qui sont produits non seulement par la technologie, ou qui sont maîtrisés par la technologie, les systèmes d'évaluation, etc. En fait, c'est à cet endroit-là qu'il faut imaginer des alternatives pour pouvoir les dépasser. Parce que sinon, la technologie elle-même, et parfois on utilise la technologie pour le faire, parfois on n'utilise pas la technologie pour le faire, mais on a besoin de regarder les choses de manière un petit peu plus large.
Simultané. Oui, tout à fait. Non, mais ça, c'est...
Mais sinon, je partage cette idée, effectivement, que bien sûr que la technologie, elle informe la réalité.
Oui. Et en plus, la technologie n'est pas une vérité du tout.
Bien sûr.
C'est-à-dire, on se sert de la technologie pour accréditer tout ce que vous venez de dire, sauf que c'est souvent faux. C'est-à-dire que ça donne des résultats complètement aléatoires sur lesquels on ne peut pas s'appuyer. C'est-à-dire que même le néolibéralisme ne peut pas s'appuyer sur les technologies qu'il met en œuvre pour développer son idée politique quand même. Alors, j'en ai des exemples, par exemple, sur la génétique. Vous parliez d'ADN. On s'aperçoit que l'ADN n'est pas du tout l'alpha et l'oméga de la transmission génétique, notamment des...
De la transmission héréditaire.
Oui, héréditaire, de la souffrance psychique, par exemple, de la maladie mentale, l'autisme étant l'exemple actuel. Donc, alors on en vient à périgénétique, à l'épigénétique. Jusqu'à abandonner la question génétique. Quand on est un chercheur, on l'abandonne d'une certaine façon.
Enfin, on abandonne le dogme génétique, oui. C'est-à-dire que tout est dans l'ADN.
Oui.
Mais l'ADN reste quand même...
L'ADN reste... Oui, enfin bon, je ne vais pas discuter là-dessus, c'est évident. Mais reste quoi ?
La base.
La base
après,
de quoi ?
Mais c'est la base de la transmission héréditaire qui est elle-même modifiée par d'autres facteurs et qui n'est pas intangible.
En prénatal, ça n'a pas d'importance.
Les toxiques en prénatal, mais pas que ça.
Non,
pas que ça.
Non,
l'épigénétique.
Comment ça, non, Stéphane. Non, j'ai dit non, Stéphane. Non, ça n'est pas la base.
Si, c'est.
Non.
Avec la méthylation de l'ADN et l'épigénétique qui tourne autour de l'ADN.
Mais pas dans la pathologie mentale.
Ah, mais je n'ai pas parlé de pathologie mentale, oui, je parle de l'hérédité.
Mais oui, mais on parle d'hérédité, de l'alcoolisme, de ceci. Donc
ah non,
c'est faux.
Moi, je n'ai pas parlé d'hérédité.
C'est ça où je dis que c'est faux et que même ça, on ne peut pas s'appuyer dessus pour essayer d'évaluer des masses de population qu'on va éduquer, comme tu disais, en faisant répéter ceci ou cela. C'est fallacieux, c'est faux, c'est fragile, et ça se casse la gueule. Par exemple, la santé avec la T2A.
Avec
la T2A.
Avec la T2A.
Tarification, l'activité. Donc pour ceux qui ne sont pas du secteur, c'est une révolution d'il y a 25 ans dans le financement des hôpitaux qui ne sont plus financés sur l'enveloppe globale, mais financés sur ce qu'ils produisent. Et donc il faut faire des diagnostics, etc.
Et donc, l'hôpital reçoit de l'argent, on va dire, le patient il est là pour un délire. Donc le délire coûte tant, donc la sécurité sociale va payer l'hôpital tant, alors qu'en fait le patient c'est pas un délire, c'est une personne. Et
alors voilà, c'est justement ça qui est complètement faux, c'est-à-dire que ça ne marche pas et on a abandonné ça justement. Donc la T2A c'est une tarification à l'acte. Le cardiologue, on va tarifier l'auscultation cardiaque, le CG, non pas l'auscultation justement. Pas l'examen clinique. On supprime tout ce qui est clinique, tout ce qui est correspondance avec le patient. Et on ne va tarifier que les actes.
Parce que ça ne peut pas rentrer dans la technologie.
Parce que ça, voilà.
Donc, là, on est dans le mécanisme.
Oh, c'est tellement important.
Oui, non, mais bien sûr. C'est pour ça que je dis que c'est extrêmement fragile. Et on voit aujourd'hui ce que ça donne sur la santé, les hôpitaux. Enfin, c'est une catastrophe.
C'est aussi comment on va faire pour trouver un équilibre. Parce que,
comment on va faire pour
Pour trouver l'équilibre, parce que bien évidemment que les personnes qui vont être amenées qui sont nées récemment et qui sont amenées à naître, si elles sont diabétiques et que leur façon de fonctionner pour leur diabète, c'est d'utiliser leur portable, ben, si elles sont bien avec ça, moi je vois pas. Mais par contre, pour autant, ne vendre que ça comme outil de mesure de la glycémie, ben non, parce qu'il y aura probablement des personnes dans le lot qui préféreront se piquer le doigt et faire de façon conventionnelle. Et c'est pareil que d'organiser des actes militants dans des lieux alternatifs ou dans des lieux de autres que gouvernés par le libéralisme. Comment on va faire pour que ce soit émancipé de toute norme capitaliste et libérale, mais pour autant, comment on peut passer par des réseaux sociaux pour répandre l'événement et sensibiliser des personnes pour qu'elles quittent justement ce dans quoi elles ont été formatées et qu'elle puisse se diriger vers des
saisons.
Je vais essayer d'être court. En tous les cas, tous les deux. Sur la logique technologique, je suis pas sûr qu'à chaque fois on parle de la même chose avec ces mots valises. Il y a beaucoup de mots valises qui sont utilisés. Technologie en est un. Néolibéralisme en est un autre. Ça dépend si on le prend comme une idéologie, il faudrait la construire, il faudrait voir ce qu'il y a dedans. Si on la branche sur une sur l'autre, si on voit les pratiques qui sont derrière, donc je me méfie, moi, personnellement, toujours du mot valise. Alors, il y a une manière de le voir, c'est celle qui est définie, à mon avis, qui va le plus loin de Sadin, il est même bien inférieur, qui est celle de Jean Violac, où lui, c'est très simple, la technologie a pris la place du capital. Le capital, c'est la grande machine. Bon, donc Marx, on est des marionnettes de la machine. Et finalement, la technologie fait fonctionner jusqu'au bout la machine. Donc ça, et donc il appelle ça, on est déjà dans l'apocalypse. L'apocalypse nous révèle déjà la fin des temps, on est déjà dedans. Et puis c'est quand même très très bien démontré, au niveau philosophique du moins, par Violac. Sadin, il est un peu dans cette veine-là, mais c'est beaucoup plus faible, en tous les cas, philosophiquement. Ça, c'est la première. Bon, moi, j'y crois pas. Je pense que, concrètement, si c'est l'idéologie, c'est la logique d'une idée. Donc, effectivement, dès qu'on fait fonctionner une idée et qu'on déploie sa logique jusqu'au bout, on obtient ça. Et finalement, on ploie le réel sous l'idée qu'on avait pour le lien. Bon. La deuxième, c'est l'idée de brancher, si on estime qu'ils ne sont pas congruents, les nouvelles technologies, et notamment le numérique, avec le néolibéralisme. Là, il y a quand même des questions. Effectivement, je ne suis pas sûr que les technologies soient neutres, même si les technologies ont le problème, comme le disait très bien Heidegger, de ne pas penser. Donc la question, c'est de savoir comment on va les penser, comment on va les brancher, et elles sont branchées de manière plurielle. Deuxièmement, je ne suis pas sûr du tout non plus que le néolibéralisme, enfin, soit exactement la même chose que le capitalisme, de un, et deuxièmement, que le capitalisme, lui, fasse des normes. Je pense que le capitalisme passe son temps à décoder les normes des autres. Elle détruit systématiquement toutes les normes pour les ramener à ce qui est quand même une invention qu'on a déjà chez les Grecs dans le Politique 2-9 d'Aristote, qui est que la monnaie, c'est la bonne manière de transformer les qualités en quantité et de les commensurer. Alors c'est sûr que si on le généralise à tout ce qui est normalement indisponible et que tout devient disponible, eh ben tout devient marchandise et on a finalement Marx qui arrive avec ça, avec sa plus-value, il faut faire autrement, etc. Mais c'est vrai que c'est une idée qui en fait a fait long feu et qui ne marque, à mon avis, aucun avenir, en tous les cas, tel quel. Mais là-dessus, le néolibéralisme, c'est pas forcément que ça. Avec l'idée que je vais piquer et comme ça Étienne Balibar, que si ce qui vient après le sujet, pour faire écho à ce que disait Étienne Leroy, ce qui vient après le sujet, donc la postmodernité, Balibar disant de manière légèrement provocateur, c'est le citoyen. Et puisque le sujet, c'était le sujet du roi, ben en réalité, après le citoyen, il y a toujours besoin d'une figure pour la remplir, qui est son subjectum, en fait, son sujet qui le remplit. Et que la manière dont ce sujet du militant, de celui qui va participer, qui va faire du commun, va être systématiquement réinvesti en tant que sujet, oh là là, il va être extraordinairement pris à un nombre d'assujettissements par les meilleures volontés qui soient, qui est très important. Alors, si je dis ça, c'est qu'on va pouvoir développer des idées pour faire du commun, etc. On va penser les sujets, les libérer de grandes machines, de grandes idéologies. Mais en fait, derrière, il y a de grandes chances qu'à chaque fois qu'on décode quelque chose, on le recode d'une autre manière. Sur la manière de faire autrement, alors dans la justice, là, je reprends ma paroisse, ma casquette de juge, on a des problèmes sur le numérique incroyables, mais c'est déjà en train d'être fait, c'est-à-dire que le ministère a pris une loi en 2000, on est en 19, donc elle date de 2016, avec programmation, donc en fait tout va être numérisé complètement. On s'est posé la question s'il y aurait des juges robots, de la même manière qu'il y aurait des médecins robots, enfin, on partage des questionnements des fois. Alors bon, il y a eu des choses qui sont faites, mais ce qui est vrai, c'est que c'est comme à chaque fois, enfin, c'est ce que j'essaye un peu de distiller là, c'est plutôt le discours de l'équivoque que celui des gros blocs et des mots valises, c'est que c'est un discours, alors qu'il serait néolibéral, je le vois pas du tout, hein, mais qui est lui plutôt prononcé et proposé sous l'idée à l'inverse. C'est-à-dire que le numérique va être ce qui va permettre de réduire les fractures d'accès à la justice, les gens qui sont précarisés, qui ne pouvaient pas payer un avocat ou qui ne connaissaient pas suffisamment leurs droits, parce qu'en général, on n'est pas précarisé sous un seul item, mais effectivement, connaissance, isolé, etc., n'accèdent même pas au tribunal pour faire revendiquer leurs droits, eh bien, le numérique sera un moyen de leur permettre d'y accéder, parce que c'est une prise en charge complète, c'est ultra facile. Et là où je parle de discours équivoque, c'est que c'est véritablement comme ça que c'est prononcé. Alors, évidemment, on peut soupçonner les choses. La deuxième manière, c'est que ce serait une aide à rendre une décision qui serait plus égalitaire, parce qu'à partir du moment où vous faites tourner un logiciel qui prend 5 millions de décisions de justice et qui vous dit, ben voilà, grosso modo, comment ce serait jugé, donc il y a 95% de chances que ce serait jugé comme ça, 2% de chances comme ça, puis 1 comme ça. Bon, je vois mal le collègue qui dit il y a 5 millions de décisions qui vont dans ce sens, moi je vais faire autrement, la pression est un peu dure quand même. Et deuxièmement, ça figerait la jurisprudence. Et à l'inverse, on voit déjà d'autres start-up qui parodiant l'Oulipo, ont proposé l'Oudripo, l'ouvroir de droit potentiel, et qui disent mais ça dépend quand en séquence, parce que finalement, ça permettrait aussi, si on ne le fait pas de manière monolithique, mais de chercher toutes les solutions possibles, eh bien d'ouvrir l'éventail du juge, et c'est vrai qu'il y a des solutions auxquelles on ne prend jamais, et qu'un logiciel qui fait tourner 5 millions de décisions va nous proposer une décision à laquelle on n'aurait pas pensé, et qui pourrait être la bonne. Donc en fait, c'est cet équivoque-là que je veux faire partager, de la même manière que sur l'accès au droit, on peut être très très sceptique, Et en même temps, il y avait une initiative d'une petite start-up d'État pour les droits sociaux, donc vraiment, je parle des gens les plus précarisés, et qui s'était pris la tête, et avait réussi à collecter tous les droits des personnes précaires, handicapées, enfin, qui vont cumuler un certain nombre de choses, et qui se sont rendus compte qu'en l'état actuel, eh bien, ces personnes, finalement, ouvraient leurs droits à 60%, 70%. Et l'ancienne garde de leurs droits n'était jamais entièrement ouverte. Eh bien, avec leur petit logiciel, vous rentrez votre nom, votre prénom, votre situation, etc. C'est assez simple, voire être accompagné s'il faut le faire. Et toute la gamme de droits était ouverte immédiatement, elle était remplie, mais on gagnait un temps colossal. Ce petit logiciel-là, qui est, alors moi, qui ne souffrais pas la discussion telle qu'il a été présenté, a été mis de côté par le ministère pourquoi ? Parce que, évidemment, à partir du moment où on aurait implémenté ce logiciel-là, on mettait au chômage, et c'est toute l'équivoque de la chose, toutes les assistantes sociales où il y a quelqu'un qui arrive en face et qui dit « Voilà, alors vous pouvez ouvrir votre droit, vous allez avoir la hache, vous allez avoir ça, vous allez avoir ça », mais qui, en fait, n'avait pas accès à la gamme entière des droits, parce qu'il y a un problème d'être toujours mis un jour, toujours, bon, et ne saurait plus faire. Donc, en réalité, un problème d'accompagnement des personnes à ces outils qui ne sont pas nécessairement une horreur, et qui permettent justement également de lutter pour gagner de nouveaux droits et de remplir plus amplement les droits. Si je voulais terminer en fait toute cette équivoque dans laquelle je m'immisce dans la conversation, elle revient en fait à un moment qui est quand même assez structurel pour notre pensée. C'est le même moment où on va faire le sacre de l'individu et de l'homme, des droits de l'homme, et de la même manière, ça va être couvert, ce fameux sujet, par d'autres investissements. D'abord la société industrielle, le capitalisme, etc., et d'autres après. Mais moi, je ferais juste remarquer une chose, c'est que tous les discours d'émancipation qui ont existé se sont faits au nom aussi des droits de l'homme. Ça veut dire que de la même manière qu'on a replié les individus et les hommes sous des structures à nouveau d'assujettissement, eh bien la manière de pouvoir également lutter pour obtenir un droit à la différence, pour obtenir une reconnaissance de droits, etc., c'est fait au nom, bah, effectivement, de ce qui peut être proclamé par cette même idée. Et c'est l'équivoque qui y est au cœur même. Alors, moi, je veux bien entendre tous ces éléments que vous avez donnés, que je trouve passionnants et qui disent des véritables problématiques. Et ce que moi, je vous invite, c'est à le penser dans son équivocité la plus complète, parce que ça donne aussi de très bonnes choses, voire même, ça permettrait, si c'est branché correctement, si c'est articulé correctement, de gagner de nouveaux droits, d'être des instruments de lutte, là où ce sont aussi des instruments de domination.
Je pense que l'avis de Philippe Varin serait intéressant pour cette question, et celui de Caroline Després aussi, parce que je pense que dans le non-recours et dans le renoncement, il n'y a pas seulement un manque d'information et un manque d'accès et d'accompagnement, il y a aussi un renoncement refus, et il y a un non-recours qui est de je m'oppose à ce que... Enfin, je m'en voudrais de mal reprendre les mots de Caroline Després et de Philippe Varin, je ne sais pas, mais je pense que c'est beaucoup, beaucoup plus complexe que ça, et que...
Moi, ce qu'on entend,
moi j'invite à la complexité.
Ce que j'appelle en dentaire les signes extérieurs de souffrance, c'est-à-dire je suis dans la galère et je montre que je suis dans la galère, et donc je n'irai pas me faire soigner, donc un protocole automatisé ne me fera jamais me faire soigner. Et je pense que là, ce que vous soulevez, c'est absolument fondamental. C'est fondamental, c'est l'interface institution-usager. Comment est-ce que, en 2019, on réfléchit l'interface institution-usager ? Est-ce que la technologie a son mot à dire, ou au contraire, est-ce qu'elle est en train de perturber, de dénaturer, et voire même de violenter cette interaction entre l'institution et l'usager ? Et les deux lecteurs que j'ai eus savent que c'est au cœur de ma réflexion. Parce que l'interculturalité, elle est là. Elle est d'abord entre des institutions qui ont des missions, quelles qu'elles soient, hein, éducatives, judiciaires, sanitaires, sociales, solidaires, etc. Et des gens. Et comment est-ce que ça rentre en relation ? Et là, je pense que la technologie, elle est en train de créer un coin. Et au contraire de... Alors évidemment, l'irénisme va nous dire que ça va permettre d'ouvrir tous les droits. Parce qu'effectivement, les gens, l'assistante sociale ne peut pas avoir l'ensemble du code social. Vous connaissez le code social, c'est impossible. De même que le médecin, il ne peut pas avoir tous les diagnostics en tête. De même que le juge ne peut pas avoir tous les... Mais sauf que c'est de l'humain. Et que ça se fait de l'humain en humain. Dans ce que je disais... Mais parce que l'humain, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est une pensée buissonnante. C'est pas une pensée linéaire.
Mais ça s'oppose pas non plus encore. Donc on peut très bien avoir des dispositifs à basse œil, aller chercher les personnes effectivement qui sont trop en difficulté, les laisser venir comme elles sont, et en même temps avoir des outils qui permettent de multiplier les potentiels. Enfin, c'est pas antinomique.
On entend ce que vous dites. Moi, je vais vous renvoyer à vous-même, si vous voulez bien.
Le court chemin passera forcément par quelqu'un d'autre.
Oui, par moi.
Méfiez-vous des psychanalystes.
Ils ont inventé le soupçon.
Moi, je voudrais juste rajouter le fait que...
Ah, pardon.
Je suis d'accord avec ce que vient de dire Stéphane, mais qu'en plus, il y a l'interaction institutionnelle remet en question la notion même d'institution. Qui commence à être interpellé en tant que tel. Dans ce que disaient les gilets jaunes, qui sont des petites folies qui parcouraient, disons, les prises de parole, on voyait que le manque de confiance dans toutes les institutions rectrices de notre vie sociale, la justice en particulier, mais l'éducation nationale, etc., sont en train de miner l'idée même que l'institution, comme, telle qu'elle a été inventée au milieu du XIIIe siècle par un juriste italien qui est devenu pape sous le nom de 1804, cette notion d'institution, elle est en train d'être remise en question et peut-être qu'elle va voler en éclats. Et à partir de ce moment-là, on se retrouve bien là, vraiment devant des choses qui sont... Donc, si la notion d'institution même, au moins ébranlée, voire... se met à éclater dans de multiples, dans cette perspective buissonnante dont tu parles, à ce moment-là, on se trouve devant un monde complètement neuf qu'il va falloir réinterpréter, où la technologie peut être effectivement un instrument d'abrutissement, de domination, etc.
Alors Dominique, et puis...
Oui. Juste un mot, Étienne, je ne suis pas d'accord avec la position que tu donnes des gilets jaunes aujourd'hui.
C'est une gilet jaune convaincue.
Oui.
D'accord.
Voilà, c'est clair. Comme ça, certains gilets jaunes, bien entendu, oui, ceux auxquels j'ai assisté au débat.
Le débat n'est pas autour des gilets jaunes. Vas-y.
Non, mais la désinstitutionnalisation, elle est surtout de l'exécutif aujourd'hui. C'est l'exécutif qui tue nos institutions pour l'instant. Ce n'est pas tellement les gilets jaunes. Les gilets jaunes, ils disent qu'ils ont besoin d'institutions et que justement, ils n'ont pas assez de soutien des institutions et qu'ils sont laissés à l'abandon. Oui. Bon.
Je voulais dire simplement qu'ils ont le mérite d'avoir porté la parole sur cette question-là.
Oui,
c'est... Non, mais c'est une révélation politiquement essentielle dans le cas.
Allez, on passe aux gilets bleus.
Oui. il y a quelques années, à Vitry, nous avions fait une journée qui s'appelait l'enfant sujet.
Ah oui.
Et vous y étiez invité,
c'est
monsieur
Mazabro.
C'est vrai,
je suis venu, oui.
Voilà, donc nous nous connaissons.
Oui.
Voilà.
Merci pour cette permanence.
Oui. Et justement, nous parlions déjà à l'époque, c'était en 2001, de cette question et de l'enfant sujet. Je ne vais pas reprendre ce qui a été dit et fait ce jour-là. Je vous ai retrouvé comme juge pour enfants, où vous avez eu à travailler l'enfant sujet dans le cadre d'un placement familial à Jean Cotzette. Et vous avez eu à juger pour plusieurs enfants dont je m'occupe, puisque je travaille dans ce placement familial, à travers des référents, des éducateurs spécialisés avec lesquels vous avez eu des discussions formidables, puisqu'elles me les ont rapportées en disant « mais ce juge
est formidable ». Pas besoin de technologie pour les souvenirs.
C'est pas grave, c'est vous dire que vous, en tant que juge pour enfants, pour au moins 3 enfants que j'ai en tête, vous avez eu à discuter, mais ardument, avec les référentes, les jeunes femmes, qui sont des femmes qui ont entre 25 et 30 ans, et qui sont venues vous prendre à partie sur la place du père, notamment, je me souviens.
et où vous avez eu à prendre des décisions par rapport à les visites médiatisées, le retour, etc. Enfin, des choses comme ça. Et je vous assure que dans ces questions-là, il n'était pas question de technologie.
Mais personne ne vous dit l'inverse.
Voilà.
Pourquoi trancher?
Attendez, on va laisser.
On a pas dit qu'on allait virer une audience où les gens se parlent.
Je pense que vous ne réalisez pas à quel point nous, dans la santé, ça a pris la place que c'est en train de prendre chez vous. Et on a 20 ans d'avance sur vous.
Voilà. Et au niveau de l'éducation, c'est la même chose, parce que là, on arrive à l'évaluation numérique. Donc, un jour T, on doit mettre toute une cohorte d'enfants devant un ordinateur qui doivent répondre à des questions, cliquer, sans plus de réflexion. Et au bout du compte, on a des résultats et on estime que cette cohorte d'élèves dans tel item a un niveau bas ou à un niveau correct ou pas. Alors que moi, j'ai vu les élèves devant les ordinateurs, ils étaient là, certains ne se sont pas pris au sérieux du tout, malgré tout ce qu'on a pu leur expliquer, donc qui ont coché comme ça, qui s'amusaient. D'autres qui, parce qu'on est, c'est une population, un public vraiment fragilisé et qui arrivait sans avoir pris de petit-déj, ou qui, la maison, il y avait eu des événements qui ont impacté leur... niveau psychique, ou en tout cas ils n'avaient pas d'énergie et qui étaient là donc ils ont répondu comme ils étaient, et donc au bout du compte on a une machine qui détermine que cette cohorte là ils sont au niveau français complètement 2% 3% de réussite au niveau des mathématiques, alors que ce moment là ils n'étaient pas ils n'ont pas joué le jeu, ou ils n'étaient pas en capacité de le faire. Et qu'est-ce qu'on fait de ces chiffres-là? Moi, c'est ça. C'est-à-dire qu'on ne se pose pas la question. On a quand même des enseignants qui suivent ces élèves-là, qui les voient progresser, régresser un pas, progresser à nouveau. Et tout ça est balayé avec une évaluation numérique. Et moi, ça me questionne. Qu'est-ce qu'on en fait après? Et quel est l'objectif derrière? Comment on va interpréter ça, si on l'interprète, et est-ce qu'on va mettre des moyens pour chercher à comprendre pourquoi on a ces résultats-là? Je ne suis pas sûre. Voilà.
C'est blanquer. Hein,
c'est ça.
C'est-à-dire qu'en plus, dans ce truc-là, il faut savoir que les professionnels n'ont pas été associés aux évaluations, à la construction. Donc les enseignants, moi, c'est ce que j'ai entendu en collège et école. Après, je trouve qu'il y a un discours un peu paradoxal, en tout cas au niveau de l'éducation. Parce qu'il y a beaucoup plus, actuellement, il y a quand même un gros souci au niveau professionnel par rapport aux conséquences qu'ont les numériques sur les jeunes. Parce que moi, j'ai assisté à plusieurs colloques là-dessus, et notamment, ce qui m'a beaucoup frappé l'année dernière, c'était sur la tranche 0-6 ans. Et c'était un colloque d'une association qui s'appelle Alerte, l'association de lutte pour la réduction devant le temps des écrans. Et il y avait même un psychiatre, alors j'ai oublié son nom, qui parlait d'un nouveau trouble. C'est-à-dire que les enfants de 0-3 ans, le retard de langage, évidemment, ne vont plus à la découverte du monde, les trucs d'interaction, donc beaucoup de choses. Alors, d'un autre côté, il y a ce problème se pose au niveau de l'éducation, donc il y a beaucoup d'associations maintenant qui interviennent sur ça, sur les écrans, sur les tout truc. Et d'un côté, il y a une injonction à développer le numérique sans se poser les questions. Et c'est en effet le discours du ministère. Là encore, et ça touche pas seulement l'éducation, ça touche aussi les côtés territoriales, puisque là j'ai vu que Mme Pécresse allait fournir des tablettes à tous les lycéens, pratiquement la région Île-de-France. Et donc dans les écoles, moi je veux dire, dans les écoles, les tablettes, certaines elles sont restées dans les placards.
De quelle marque
Non, parce que les collègues déjà n'ont pas été formés à quel usage ils vont en faire. Donc il y a plein de questions qui se posent. Alors, c'est de la technologie.
Quel est l'objectif quand on met en place ou quand on initie quelque chose, enfin une évaluation ou en tout cas un accompagnement ou un usage? Qu'est-ce qui est derrière? Qu'est-ce qu'on veut faire de ces chiffres? Moi c'est ça qui me questionne, parce que c'est jamais anodin.
Et puis il y a quand même du secret. Parcoursup est quand même c'est frappant. On ne sait toujours pas les algorithmes. On ne sait pas exactement ce qui est derrière. Donc c'est une machine à trier sans que l'usager, le lycéen.
L'humain,
le l'humain. Les médecins sont formés. Les médecins, maintenant, c'est des QCM sur des tablettes.
Ouais. Non, mais on ne sait pas.
Ça fait 40 ans que ça existe.
Oui, non, enfin, pas sur les tablettes. Mais voilà, on juge si vous êtes bon médecin, si vous êtes capable de remplir des cases sur une tablette. Mm-hmm. Frédéric, vous voulez intervenir tout à l'heure.
Oui, je voulais réagir parce que moi, je partage vraiment l'idée que on peut pas résoudre. L'idée qu'on va résoudre la question de l'accès au droit en imposant de manière systématique l'accès au droit à tous. En imaginant que la réponse à ce problème, c'est une technologie qui permet de systématiser l'accès au droit de manière automatique, en gros, dépolitise complètement ce sujet. C'est-à-dire que c'est considéré que cette question-là n'est pas une question politique. C'est-à-dire qu'il n'y a absolument rien de politique dans le fait de ne pas recourir au droit. Et ça, je crois que c'est hautement problématique. Parce que moi, j'ai essayé de... Alors, j'avoue que je suis tout à fait d'accord. Hein, j'utilise des mots valises et je suis pas forcément,
pas faire autrement.
Je suis pas forcément capable de faire... d'y rentrer très finement. Mais je fais une distinction entre le capitalisme et le néolibéralisme. Ça... Je ne fais pas d'amalgame de ce côté-là, mais je pense que ce sur quoi j'insiste, c'est que plus que de parler de technologie, je parle de médiation, de médiation technique, ce qui n'est pas exactement la même chose. C'est de considérer que c'est la médiation technique qui nous intéresse, parce que ça renvoie pas seulement à l'outil technique, mais ça renvoie à un ensemble de problèmes. L'évaluation en est un, la production du social en est un autre, les différents usages, en tout cas l'usage, l'accès à la connaissance par exemple en est un autre, et qu'il y a là un ensemble d'éléments, je dirais, de l'ordre du social et du culturel qui fomentent le tissu social, le tissu de la société, de la communauté. Et c'est pour ça que pour moi, c'est important de parler de cette relation entre la médiation technique et l'interculturalité. C'est que c'est pas la relation entre l'outil technique et l'interculturalité qui, de mon point de vue, est important. C'est la relation qu'on va construire entre la médiation en vue d'un projet interculturel, en vue d'un projet politique interculturel. Et cette médiation-là, elle peut pas être contenue dans une solution qui est une solution purement technique. Donc c'est ça qui me semblait important. Et je trouve que la question du non-recours, elle est extrêmement édifiante, quoi, de ce point de vue-là. C'est une démonstration dans la nature.
Par rapport à ce qui, moi, ce qui me frappe, parce que tu dis c'est une question politique, et si je comprends bien, on peut presque nous la confisquer. Je trouve que ça marche pas mal, ça. Dans le sens où ce qui est peut-être rhétoriquement très bien armé dans le discours, en tous les cas, de la numérisation de la société, c'est l'idée que la manière dont la société fonctionne actuellement, un certain nombre de demandes ne sont pas des surprises. Enfin, je veux dire, les gilets jaunes, on peut penser que c'est une surprise, mais ce n'est pas tellement une surprise. La société de la particularité, ça fait 30 ans que c'est très très bien analysé. L'idée qu'il a fallu, via d'autres mouvements, récupérer des éthiques complémentaires par rapport à l'éthique de la justice abstraite, notamment, pour faire très massif, toutes les éthiques du Caire, qui vont aller chercher dans la singularité le besoin de la personne, lui répondre jusqu'au besoin pour la prendre en compte en tant qu'humain dans tous ses besoins, etc. Ça fait quoi ? depuis 30 ans que, et notamment dans tous les domaines du travail à la personne, l'éthique du care, elle existe. Alors, chez les médecins, dans l'éducation, un peu moins dans la justice, donc le care, c'est pas. Mais grosso modo, cette idée de la particularité de répondre aux besoins des personnes et non pas forcément à leurs demandes légitimes, ça c'est aussi autre chose, ce qui veut dire dans leur particularité, ça y est. Et pour autant, cette logique-là confisque le débat en disant, mais justement, on a bien entendu vos besoins, alors nous on va jusqu'au bout de vos besoins, et on va y répondre, mais alors comme nul ne peut ou ne pourra jamais y répondre grâce à cette manière-là. Donc là, il y a effectivement une sorte de confiscation, parce que tout le monde va dire mon besoin, ou là ça ne répond pas à ma particularité, tel que je suis un être humain, avec mon histoire, avec ma chair, avec mes affects, etc. Ça a pris en compte. Et la meilleure manière, et de toute façon, trouvez-moi autre chose qui permettra de faire encore mieux, aussi efficace, dans le temps utile, avec le gâteau à partager du coût, eh ben vous n'y arriverez pas. Donc ce discours-là, effectivement, dans la disproportion qui est amenée, coupe l'herbe sous le pied à une revendication de dire « et je veux faire autrement ». Surtout que, ce que je disais en disant il faut mettre de l'équivoque là-dedans, donc de l'équivocité, je sais pas, c'est pas du tout dire attention, cet élément-là marchera pas. Enfin, moi je pense que ce sont, ou c'est en ce moment l'un des endroits, parce qu'il n'y a pas que celui-là, où il va falloir complexifier les choses, et c'est effectivement un endroit de lutte, parce que on n'est plus tellement dans une société de la surveillance. La société de la surveillance, c'est la société, ça va avec la société disciplinaire pour faire massivement du Foucault, mais lui-même avait bien vu avec le néolibéralisme qu'on était passé à autre chose qu'une société de la surveillance. Il appelait ça la société du contrôle, c'est-à-dire une société où en permanence toutes les normes collent à votre peau et elles permettent de mieux vous englober. Donc là, il y a des enjeux très très forts parce que effectivement, on va de mieux en mieux s'adapter à vous, à votre parcours, en mesurant vos taux, votre rythme cardiaque, ce que vous mangez dans le frigo, etc., etc. Et en permanence réussir à répondre mieux à vos besoins. Mais d'un autre côté, s'il y a des enjeux de pouvoir et j'entends la question de l'accès. Il y a évidemment des personnes qui seront... Ça va créer des nouvelles fractures, ça va créer des nouveaux éléments de domination, et par ailleurs, on ne sait pas bien où on va jusqu'au bout. C'est-à-dire que, de la même manière qu'évaluer une politique purement de manière quantitative et qu'est-ce qu'on en fait, moi je suis tout à fait d'accord avec vous, hein. De la même manière, évaluer un juge à la quantité de jugement qu'il rend, sans se poser la question si le jugement, il était acceptable pour chacune des parties, ça devient complètement dingue. Enfin, je veux dire, voilà, on peut faire du papier.
Mais c'est à ça que vous allez arriver.
Mais non. Mais si. Mais alors, il ne faut pas partir des fétistes comme
non,
ça.
Non, mais attends. Je pense qu'il faut quand même savoir regarder ce qui s'est passé dans d'autres secteurs.
Ah oui, ça, clairement, pardon.
Et quels sont les enjeux qui ont été en cause. Et je pense que vous êtes au stade où nous étions en santé il y a 30 ans, c'est-à-dire qu'un usage raisonné. Moi, j'ai importé le premier ordinateur portatif au Botswana dans les années 80. Et j'ai commencé à avoir des statistiques parce que c'est un usage raisonné qui permettait de savoir un petit peu quelles étaient les pathologies, etc. Où on est arrivé. On est arrivé à la T2A, 30 ans après. Donc vous en êtes encore à mon stade de Botswana de 82. D'ailleurs, c'est super, c'est génial, ça vous permet de voir un petit peu plus clair.
Non, on ne dit pas que c'est génial, hein. La plupart sont des contents.
Non, mais ça nous permet d'y voir un petit peu plus clair. Ça nous permet d'y voir un petit peu plus clair. Sauf que le danger, il est derrière. Étienne voulait prendre la parole.
Oui, et je demanderai la route après, comme on fait au Burkina.
Trois fois.
Là, c'est la première fois, une deuxième fois.
Parce que la première fois, si on vous dit de partir, c'est mal élevé, c'est-à-dire qu'on se débarrasse de vous, donc il y a toute une stratégie. Donc on fait une fois de portant la première fois, la deuxième fois, on en parle un petit peu. Et la troisième, bon, là, on peut le dire. C'est vrai.
Les anthropologues du droit, à propos de la soumission de l'accès au droit, parlent de juridicisation. C'est-à-dire donc un processus qui soumet des modalités de régulation qui jusque-là relèvent du contrôle social, qui sont donc inscrites dans la conception d'un droit comme émanation directe ou indirecte de l'État. Et donc, moi je travaille là-dessus en ce moment, je suis en train d'écrire sur la médiation. Et, parce que j'ai pris la médiation au milieu des années 80, à un moment où elle était totalement étrangère au monde du droit. On ne parlait à ce moment-là que de médiation. Et dans le cadre de mon labo, on a fait un beau rapport en 85-86 pour le ministère de la Justice sur la médiation. Et puis donc, l'expérience de médiation s'est développée. Et on a eu l'occasion de voir comment progressivement, 96, 98, etc., des législations spécifiques puis des réglementations se sont imposées. Et ce sur quoi je travaille en ce moment, c'est sur la manière sur laquelle les différents types d'acteurs, et en particulier les médiateurs, avec lesquels j'ai eu l'occasion de travailler, Association nationale des médiateurs, des tas de choses comme ça, j'enseigne dans un DU à Paris 5 sur... médiation, règlement des conflits, qui existe depuis 1995. Et on fait des choses là aussi qui sont très intéressantes, qui permettent, sur des périodes de 25-30 ans, qui sont vraiment des reculs historiques absolument essentiels pour comprendre le sens d'un certain nombre de questions. Donc en ce moment, je suis en train d'essayer d'identifier la manière selon laquelle différentes tendances émergent dans le monde des médiateurs pour... réagir par rapport à cette soumission nouvelle au monde du droit, des juristes et finalement au modèle du magistrat. C'est le modèle judiciaire qui en fait traverse l'ensemble des référents et des pratiques du monde de la médiation et risque à chaque instant de faire prendre le médiateur pour un magistrat au petit pied. Comment ce monde-là réagit, s'organise, comment les modèles précédents, antérieurs, où la médiation est une fonction sociale et non pas un mode alternatif de règlement des litiges. Alors, on parle même de litige, j'ai trouvé ça, cette expression absolument incroyable, puisque un litige, c'est un différend pendant dans une juridiction qui est inscrit au rôle de la juridiction. Donc, la caractéristique même de la médiation, c'est qu'elle est extérieure aux procédures judiciaires, la procédure judiciaire. Alors, on se trouve comme ça en face de tout un ensemble de réutilisation de vocabulaire dont il faut essayer de percevoir l'ensemble des implications et des enjeux. Et les enjeux, ils sont... On revient toujours un peu sur le même socle. Bon, moi, je vais me permettre de vous...
Non, bah, écoute, merci beaucoup. Je pense qu'on va... merci beaucoup.
Malheureusement,
on ne peut pas épuiser le sujet.
On ne peut pas plus, on ne t'a pas tellement entendu.
Non, c'est très bien, c'est très bien. Tout le monde...